بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي شيخ خيرسان وكلوتشورون les programmes, les interventions de ce mois béni de Ramadan 2024-1445 par le commentaire, le tafsir d'un verset de la sourate Ghafir, verset qu'on avait un peu abordé lors d'une intervention sur les doigts des anges. Pourquoi est-ce qu'on a choisi ce verset ? Parce qu'on va voir à travers la lecture de la traduction et des commentaires, Inch'Allah, l'importance du retour vers Allah. L'importance de la fermeté dans notre intention de revenir vers Allah, de nous rapprocher de lui et de provoquer un véritable changement de notre vie. Quand le croyant se décide d'analyser sa vie, son parcours, d'identifier ses manquements, dans les bonnes œuvres, les salats qu'il ne faisait pas, ou le droit des parents dont il ne s'acquittait pas, ainsi de suite. Donc, quand il prend le temps d'analyser ses manquements, mais également ses péchés. Ses péchés, ça peut être un problème de contrôle du regard, ça peut être... On passe à des exemples un peu plus graves, un problème en rapport avec l'adultère, c'est peut-être un homme qui n'était pas fidèle, un problème en rapport avec l'argent, quand c'est quelqu'un qui avait des transactions financières contraires à l'éthique islamique, l'intérêt par exemple, et ainsi de suite. Donc je reprends, quand une personne prend le temps et prend la décision d'analyser sa vie, son parcours, et quand je dis sa vie, je ne parle pas forcément de quelqu'un qui a 85 ans. Je parle de, mashallah, n'importe quel croyant qui, à un moment donné, reçoit la hidayah de la part d'Allah. Parce que, comme on l'avait dit dans un ancien programme, dans un récent programme, on ne pourra jamais, na'oudou billah, tromper notre Seigneur. Le croyant qui planifie ses péchés et planifie son tawba et prévoit qu'après le tawba, il retourne vers les mêmes péchés, et qu'ensuite il redemandera Tawbah, d'une certaine façon il essaie de tricher avec la religion, mais on ne triche pas avec notre Seigneur, parce que tout simplement, on ne triche pas avec notre cœur. Le cœur est un muscle, mais à la différence, comme le samedi c'était un mudra, mais à la différence des autres muscles du corps, biceps, triceps et ainsi de suite, qu'on peut contracter, décontracter, qu'on peut mobiliser, renforcer et ainsi de suite. Bref, le cœur est un muscle sur lequel nous n'avons aucun pouvoir externe. Le cœur, sur un aspect spirituel, il est véridique, authentique. Le cœur ne peut pas, on ne ment pas à son cœur. C'est-à-dire que je ne peux pas fausser mon IA. Si mon intention, c'est, voilà, ce mois de Ramadan, je demande pardon, je fais itikaf, je fais plein de bonnes choses, mais j'ai déjà intérieurement planifié qu'après le Ramadan, je prends des exemples que je donne aux élèves, à la madrasa, et que je donne aux plus jeunes, qu'après le Ramadan, donc on a quelques jours de battement, ensuite il y aura un week-end, dès le week-end, je recommence à sortir avec mes amis, aller en boîte, ou alors après le Ramadan, le jour de l'Aïd, je retrouve ma copine, avec qui j'avais fait une trêve d'un mois. Je vais dire Ramadan, on reste sérieux, mais après pour l'Aïd, on se retrouve et c'est un retrouvaille amoureux, magique, sentimental, na'oudou billah. C'est-à-dire que voilà, si mon niya, avant le mois béni, c'était de faire un mois de pratique intense, et ensuite de retourner tranquillement, glisser de nouveau vers les péchés, le tawbah n'est pas nasouha. Les conditions du tawbah tout nasouha, du repentir sincère, ne sont pas réunies. Parce que, dès le départ, c'est l'intention que tu as placée de ton cœur. Et tu ne trompes pas ton cœur, et tu ne trompes pas, bien sûr, ton Seigneur. Après, ça peut être quelqu'un qui a fait cette mauvaise intention, mais pendant le mois de Ramadan, Allah lui a donné la hidayah et il décide véritablement de rester dans le droit chemin. Alhamdulillah, ça c'est nourun ala nour. Ainsi donc, la personne qui, quel que soit son âge, reçoit la hidayah de la part d'Allah, c'est une lumière qu'Allah dépose à ton cœur. Très souvent, ça se passe dans le mois béni où il y a une prise de conscience et que la personne réalise et prend conscience de son identité de musulman et du fait que je ne peux pas continuer sur cette voie. Et ça rejoint le verset qu'on avait cité au début, non, avant même le mois de Ramadan, wal asri, inna al-insana lafi khusr. Voilà, on est dans le khusr, dans la perdition, si on suit notre nafs, on suit nos passions, nos envies, et qu'on ne se fixe pas de limites. On ne regarde pas les ordres et les interdits d'Allah, on décide d'apprécier la vie et de vivre comme tout le monde, d'accord ? D'aller dans le sens de tout ce que la société nous apporte, nous enseigne, Allah musta'an. Là, tu es la fille khusr, dans la perdition. Et les exceptions, c'est ceux qui ont iman, et ainsi de suite, c'est la suite du verset. Donc, cette personne réalise que jusqu'à maintenant, j'étais fille khusr, dans la perdition, je prenais un chemin d'égarement et de perdition, et que cette lumière, Allah met dans son cœur la possibilité de faire une rétrospection intérieure, d'analyser son parcours, et que la personne se décide de demander tawba, nasuha, avec la sincérité de ne plus recommencer les péchés et de rechercher l'agrément d'Allah. Cette personne, ça doit être nous. Ça doit être nous à l'instant T, à ce moment du mois béni, où on est à la veille ou deux jours de la Eid, et que là, la personne demande tawba. Je reprends et je finis avec cette introduction. La personne demande sincèrement pardon à Allah Rabbul Izzah et prend la décision ferme maintenant de suivre la voie de son Seigneur et de rester éloigné des péchés. Cette personne-là, elle est tellement aimée par Allah, elle est tellement aimée par les habitants des cieux, comprenant les anges. Cette personne bénéficie des du'as des hamalatul arsh, des anges, des grands anges qui portent le trône d'Allah, des anges qu'Allah a confié la noble mission de porter son trône comme cela appartient à Allah, comme yaliqu bihi 'azza wa jalla. Je cite le verset, c'est une introduction pour qu'on comprenne pourquoi est-ce qu'on complète le mois de Ramadan avec ce verset. C'est le verset qui doit nous motiver à rester ferme dans nos bonnes résolutions et faire le niya d'aller vers ce changement permanent et de rester dans le droit chemin après le mois béni. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alladhina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladhina amanu. Rabbana wasi'ta kull shay'in rahmatan wa 'ilma. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Ceux, je lis la traduction, les anges qui portent le trône, comprenons le trône d'Allah, et ceux qui l'entourent, c'est-à-dire on parle des anges qui sont autour maintenant du trône d'Allah, célèbrent les louanges de leur Seigneur, croient en lui et implorent le pardon pour ceux qui croient. Seigneur, ça c'est le doua des anges, tu étends sur toute chose ta miséricorde et ta science, pardonne donc à ceux qui se repentent et suivent ton chemin et protège-les du châtiment de l'enfer. Ibn Kathir rahimahullah, non, c'est Allama Sa'di rahimahullah, dans son tafsir, il explique que notre Seigneur Rabbul Izza nous informe de ça, je lis, an kamali lutfihi ta'ala bi'ibadihi al-mu'minin, de la grande bienveillance, de sa grande bienveillance envers ses serviteurs, qu'Allah leur permet d'obtenir les invocations des anges. Et c'est chose qu'ils n'imaginent pas. Ils n'y pensaient même pas, ils ne rêvaient même pas de ça, mais Allah nous accorde cette possibilité d'obtenir le pardon, le repentir, les doigts des anges, pour donc les serviteurs qui reviennent vers lui. Doua'ihim lahum. Et As-Sa'di dit que c'est Allah nous permet d'obtenir les invocations des anges bima fihi, pour tout ce qui nous est profitable dans notre dîn, mais également notre dunya, pour notre dîn, notre vie sur terre, mais également et surtout notre akhira. Puis il y a un passage du tafsir qui est long et qui n'est pas en rapport direct avec le istiqama, la fermeté dans les bonnes œuvres. On essaie de mettre en avant à travers l'étude de ce verset. Juste pour information, Allama Sa'di, Ibn Kathir, Al-Baghawi, Al-Tabari, et tous les mufassirs, rahimahumullah, ils expliquent qu'à travers ce genre de verset, où Allah nous révèle qu'il y a des anges qui portent son trône, ce sont des versets que nous devons accepter avec iman bil ghaib, des versets que nous devons accepter avec notre foi en invisible, et surtout ne pas essayer de décrypter ou de comprendre avec notre intelligence humaine, parce que ce sont des versets qui dépassent l'entendement humain. Ce sont des versets, et là je fais un parallèle avec un autre verset où notre Rabb Azza wa Jalla nous révèle « Wa yahmilu 'arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya ». Allah parle de 8 anges qui portent son trône, Azza wa Jal. C'est un verset test, pour tester et prouver la foi et la conviction du croyant. Que fais table rase de ta logique et de tout ce que tu peux comprendre concernant les lois physiques qui régissent Dunya. N'essaie pas de comprendre et de te poser la question du pourquoi du chiffre 8, du na'oudou billah, d'autres questions que Shaitan peut essayer de mettre dans notre esprit pour nous perturber. C'est là que tu vas aller vers ton iman bil ghaib, une conviction totale en ce qu'Allah nous informe. Amanna wa saddaqna, sami'na wa ata'na. Nous écoutons et nous croyons au Allah. Nous acceptons ta révélation, et ça c'est haq, même si je n'arrive pas à comprendre, parce que cela dépasse le niveau de l'être humain. Allah Rabbul Izzah nous parle du ghaib. Et le croyant, c'est alladhina yu'minuna bil ghaib. C'est une leçon, c'est un namoudhaj, on peut dire, c'est un entraînement pour qu'on réalise que dans le dîn, il y a la partie qu'on comprend, des choses que nous pouvons intégré, et il y a une grande partie que l'être humain ne peut pas comprendre, mais c'est là que se distingueront les pieux et les sincères d'accepter ce qu'Allah nous révèle, même si humainement on ne peut pas comprendre et vraiment intégrer par rapport à ce que nous concevons. Non. Et de cette façon, le croyant acceptera son destin, son taqdir, des choses qui le déplaisent, mais il s'en remet à Allah. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. Lorsque tu souhaites quelque chose, tu fais dua devant la Kaaba pendant les 10 dernières nuits du Ramadan, tu invoques le Seigneur, اللهم اشفني يا رب, accorde-moi la santé, يا الله, accorde la santé à mon enfant, يا الله, guéris ma maman de son cancer, يا الله, accorde-moi telle chose, يا رب, protège-moi de telle chose, et que ton Seigneur, malgré tes doigts, et j'aime pas utiliser le terme malgré, parce que c'est péjoratif, et si on a le temps, on explique pourquoi, et que ton Seigneur n'a pas exaucé tes demandes, ne sois pas triste, ne sois pas perturbé, ne doute pas, ne remets pas en cause l'acceptation de tes doigts, ne remets pas en cause As-Sami', celui qui entend tout, l'écoute de ton Seigneur à propos de tes invocations, ne te remets pas en question non plus, que peut-être que je suis trop sale, je suis trop pécheur, je suis un fasir, Allah écoute les pieux, Allah n'écoute pas des gens comme moi, na'oudhou billah, tout ce que Shaitan peut essayer de mettre dans ta tête, et que toi, être humain, avec ton expérience, tu vas peut-être déduire des leçons qui sont totalement erronées. Donc, je suis parti un peu loin dans les exemples et j'étais un peu trop détaillé. Je reprends. Quand tu acceptes les versets concernant le trône, et pareil, hein, vous savez, il y a eu des fitnas, je ne vais pas trop sortir du sujet, mais il y a eu des fitnas à un moment donné sur le verset Ar-Rahman wa 'ala al-'arsh istawa. Notre Seigneur qui s'est établi sur le trône avec des ta'wil istawa bima'na istawla, ou alors c'est une métaphore et ainsi de suite. Et également sabbihisma rabbikal a'la, sur le sifa d'Allah, uluwullah, le fait qu'Allah soit au-dessus, élevé. Parce que des gens, ça découle un peu de l'esprit mu'tazila, des gens sont partis d'une approche purement rationnelle et humaine, que si, na'oud billah, quelqu'un, si une entité est au-dessus, c'est qu'il n'est pas au-dessous. S'il est au-dessus, c'est que ce qu'il y a autour est vide de sa présence, de sa conscience. Ce sont des raisonnements philosophiques et tout à toi, nos vinaigres. Allez, je m'étale un petit peu, c'est le dernier programme du mois de Ramadan. Si on peut remonter un peu à l'historique des gens qui sont sortis, certaines personnes, qui sont sortis du droit chemin parce qu'ils ont utilisé la logique, tout ça est arrivé après que des musulmans ont traduit les ouvrages de philosophie grecque. À l'époque de, si je ne dis pas de bêtises, un peu avant Harun al-Rashid, où les écrits, les livres de philosophie grecque ont été traduits, et donc les musulmans, certains se sont inspirés et ils ont adopté le raisonnement rationnel, ainsi de suite, ce qui fait que ça crée un décalage dans la compréhension des textes sacrés du Coran, et ils ont essayé d'aligner les versets sur une approche humaine avec des... Bref, j'étais un peu loin dans les détails, mais il est peut-être bien de savoir un peu tout ça. Donc, quand tu es capable d'accepter le fait qu'il y ait des versets qui ne nous sont pas du tout accessibles et qui dépassent l'entendement, et tu dis « Amanna wa saddaqna », tu crois, tu acceptes parce que ça vient d'Allah, ça te permet d'accepter le fait que tes invocations n'ont pas été exaucées, pas pour les raisons qu'on a citées, mais parce que Allah veut du bien pour toi. Allah est bienveillant, Allah a décidé qu'il t'accordera quelque chose de mieux, et que de cette épreuve, de cette difficulté, j'allais dire de cette souffrance, Allah te prédestine quelque chose qui fera envier l'ensemble de tes des membres de ta famille, de tes amis, tous ceux qui te prenaient en pitié de ce dunya, le jour des comptes, ils vont envier ta position le jour de Qiyama et de le Jannah, parce que ce qu'Allah accorde aux éprouvés, c'est quelque chose qui est bien au-dessus de tout ce que nous pouvons concevoir et imaginer. Voilà, c'était un peu long tout ça, mais on ne voulait pas entrer dans le tafsir, mais du coup on a parlé d'autres choses et pas le tafsir. Donc As-Sa'di ibn Kathir rappelle que ce sont des versets qui éprouvent notre iman et nous devons y croire. « Wa man hawlahu » les anges qui sont autour du trône d'Allah, je vais aller un peu plus vite. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Allah rappelle les qualités de ses anges qui font son ibada sans arrêt, en permanence. Et Allah n'a nullement besoin des tasbih des anges. Tout comme Allah n'a nullement besoin de ses anges qui portent son trône. Parce que notre Rabbul Izzah, notre Seigneur, est Al-Ahadu Samad. Allah n'a besoin d'aucune de ses créatures. Allah, c'est Rabbul Alamin, Seigneur des mondes. Et Al-Alamin, c'est commenté par Ibn Kathir, par Kullu ma siwa Allah. Tout ce qui est en dehors d'Allah, ça fait partie de Al-Alamin, des mondes, de la création. Et avant le Qiyama, لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ il ne restera que, il n'y aura que notre Rabb. Azzawajal, comme au début, comme au tout début, quand il y a toujours eu notre Seigneur et Allah a décidé de créer Al-Khalq. Naam. Hada. Oui, ce qu'on disait, c'est qu'Allah rappelle la piété. Ça, c'est une leçon très intéressante. Alors, et ça, c'est franchement croustillant à développer, mais on va se perdre. On va se perdre, on finira pas le tafsir. La piété, c'est quoi? Un petit peu quand même. La piété, c'est quand tu dois faire un choix entre le bien et le mal et tu suis ton Seigneur. Les anges n'ont pas à faire le choix entre le bien et le mal parce qu'ils vivent dans un environnement où il n'y a que du bien. Et les anges ne penchent pas vers le mal. La ya'asuna Allah amara. Ils ne pensent pas au mal. Ce sont des créatures d'Allah qu'Allah a créées que pour le bien. D'accord? C'est pour ça que l'être humain se distingue. C'est pour ça que l'homme éprouvé par le péché se distingue. L'homme qui habite à La Réunion, en métropole ou dans les endroits où il y a des fitnas, il a un rang spécial auprès d'Allah. C'est pour ça que les croyants, à la fin des temps, le prophète les a qualifiés comme étant ses frères, qui ne l'ont pas vu mais qui croient en lui. Nous vivons dans des périodes de difficulté où tout nous ramène vers le péché, vers le mal, où il y a des injustices qui touchent les croyants, le monde musulman, mais malgré ça, on s'accroche à notre religion, on a husnul dhanni billah, une pensée positive sur notre Seigneur, et on s'accroche à notre foi. Chers frères et sœurs, nous avons beaucoup de valeur auprès de notre Seigneur. Ainsi donc, les anges, des êtres purs qui ne désobéissent pas à Allah, certains anges, Allah crée des anges qui sont en sujoud, en prosternation. Depuis le début de la création, et on rappelle que la création des anges, c'est bien avant la création de l'être humain, et ils restent en sujoud, en prosternation jusqu'au Qiyama. Et au Qiyama, ils se lèvent. Là seulement, ils se lèvent, c'est-à-dire ils quittent la position de prosternation et ils vont dire « Subhanak, ô Allah, toute l'ange et pureté te reviennent. Ma abidnaka haqq ibadatik. Nous ne t'avons pas adoré comme tu le méritais, ô notre Seigneur. » Ça, ce sont les malaikatur rahman. Donc, il y a des anges qui sont en prosternation, en tasbih. Et Allah a nullement besoin de ces anges. Allah a nullement besoin de ces anges qui portent son trône. Et par déduction, comprenons, Allah a nullement besoin de moi, de nous, des êtres humains, de nos tahajjud, de nos prières. Quand Allah nous permet de faire des prières, ça n'apporte rien à notre Seigneur. Au contraire, Allah nous permet d'obtenir sa satisfaction. En fait, c'est pour nous. C'est pour que nous obtenions le paradis qu'il nous a promis. Et donc, les anges reviennent à tafsir, « وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا » Et ça, c'est la partie qui nous intéresse. Ils demandent « tawba » pour nous. Et Saadi dit que al-malaika alladhina la dhunuba alayhim, ces anges qui n'ont aucun péché et qui sont purs, imaginez la qualité de leur doua. Et dans un autre texte, en commentaire d'un hadith concernant les 70 000 anges qui font doua pour celui qui, je crains me tromper et mélanger les textes, mais si je ne me trompe pas, qu'Allah pardonne mes manquements, il me semble que c'est pour celui qui rend visite à un malade. 70 000 anges qui demandent pardon pour lui. En commentaire, un savant explique, il dit que imagine que tu sais qu'il y a 70 000 personnes à Arafat à l'instant, pas maintenant, mais le jour du Hajj, il y a 70 000 personnes, je ne sais pas comment ils te connaissent tous, mais imaginez, qui se réunissent à Arafat et font doigt pour toi. Tu t'appelles Abdullah, tu t'appelles Fatima, ils demandent istighfar pour Abdullah, pour Fatima, les 70 000 personnes en même temps. Comment on est content? Comment on est satisfait? Comment on est heureux, subhanallah. Comment on est honoré et comment on est confiant, on est convaincu que waouh, 70 000 personnes sont en train de faire doua pour moi dans un endroit pur comme Arafat, alors qu'eux-mêmes ils sont déjà épurés de leurs péchés, assurément Allah va accepter. Mais là on parle des malaikatur rahman, des anges qui sont les meilleurs des créatures. Non, je reviens donc, et là, plus encore, on ne parle pas des anges qui demandent doigts pour ceux qui rendent visite aux malades. Là, on parle le summum, les plus grands parmi les anges, ceux qui sont autour du trône d'Allah et qui portent le trône d'Allah. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا. Ils demandent pardon pour nous. Quel grand honneur. لِلَّذِينَ آمَنُوا. C'est là encore que nous voyons أَهَمِّيَةُ الْإِيمَانِ. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. C'est le plus grand cadeau qu'Allah puisse nous donner. Que nous soyons en bonne santé ou malades, riches ou pauvres, honorés ou déshonorés, en pays de paix, en pays de guerre, quelle que soit la situation, sans minimiser bien sûr les épreuves que vivent nos frères et sœurs, la ilaha illallah dans le cœur, c'est le plus grand cadeau qu'Allah puisse donner à un être humain. Et mourir avec la ilaha illallah, c'est la consécration. Je reviens au verset. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ces anges? Rabbana wasi'ata kulla shay'in rahmatan wa 'ilma. On a lu la traduction, là aussi nécessite un commentaire, mais qui n'entre pas dans ce que nous recherchons. Donc, on fait l'impasse avec beaucoup de regrets. Hein. Et les savants disent qu'ils font les louanges de leur Seigneur. C'est la bonne façon de demander du'a, d'invoquer Allah, c'est de commencer par les mahamid, les louanges d'Allah. Quand tu invoques ton Seigneur, commence par, bien sûr, salatu ala nabi, les louanges d'Allah, oh Allah, ya Rahman, invoque Allah par ses noms, ses attributs. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Rabbil Alamin, ya Dhal Jalali wal Ikram, ilahana wa khaliquna wa raziquna wa malikuna, anta al-ghafour, anta al-tawwab, anta al-afou, anta al-latif, et ainsi de suite, al-aziz, al-hakim. La ilaha illallah. Citer les noms d'Allah avant de commencer les invocations, c'est la bonne façon de s'adresser à notre Seigneur avec respect. C'est la méthodologie prophétique et c'est ce qui nous permet d'obtenir l'acceptation de nos doigts. Permettez-moi une petite parenthèse. Nous sommes mardi. Oui, aujourd'hui c'est mardi. Oui, Hier soir, c'était le Khatm al-Qur'an dans beaucoup de masajid. Je parle de La Réunion, d'accord? Et le doua qu'on a eu à la Masjid Nour al-Islam de Saint-Denis était magnifique. Par notre imam, Cheikh Abbas, Allah yahfadhu, wa yahfadh ahlahu. Qu'Allah le protège, lui accorde encore plus de ni'ma et de protection. C'était magnifique parce que il a commencé le doua par les mahamid. C'était 4 minutes ou 5 minutes, je ne sais pas chronométrer bien sûr, mais c'était à peu près 5 minutes ou plus de louange d'Allah. Allah, c'était magnifique. C'était une accroche puissante parce que c'est là que ton cœur se met un peu, je dis ça, en ébullition, où l'amour d'Allah remonte à la surface. Et Ibn Abbas a cité les qualités d'Allah, les sifat d'Allah, et une preuve de grande intelligence, Allah yahfadhu, il a commencé, j'ai rarement entendu ça, il a commencé son doigt également par les différents alhamdulillah, et c'était magnifique, et c'était du pur bonheur, par les alhamdulillah, il a dit du Qur'an, je veux dire, alhamdulillah, il a dit khalaqa samawati wal ard, wa ja'ala dhulumati wal nur, et tout, la plupart des versets qui commencent par alhamdulillah, il a dit, pour montrer vraiment la reconnaissance et l'attestation que nous remercions Allah et toute louange et pureté lui reviennent. Ça, c'est la bonne méthode pour faire du'a. Et c'est ce que les anges, nous, c'est ce que notre Seigneur nous enseigne à travers les du'a des anges. Je reviens vers mon verset. Oui. Alors, oui, j'ai dit qu'on commente pas. Rabbana wa si'ata kulla shay'in rahmatan wa ilma. Faghfir lil ladhina tabu. Oh Allah. Je lis, hein, c'est mieux. Pardonne donc à ceux qui se répandent. Il demande pardon, ou Allah pardonne à ceux qui demandent tawbah. Ceux qui demandent tawbah, et là les muhaddithin expliquent, les mufassirin, pardon, ceux qui demandent pardon, mais avec sincérité. Ceux qui demandent pardon, bien sûr avec ikhlas, avec un cœur pur et sincère, en regrettant les péchés accomplis et les manquements, et qui sont sincères avec leur Seigneur à l'instant T. Cet instant T, c'est T comme le temps, mais on peut dire également instant T, instant tahajjud. On a demandé droit de pardon et qui ont fait la promesse avec Allah de ne plus retourner vers ces mêmes erreurs. Farfait lilladina tabou, attention, wa taba'u sabil. Et ça, c'est le shahid. Et ça, c'est le shahid. Et c'est ça que nous voulons mettre en avant à travers ce verset. Istiqam wa taba'u sabilak et suive ton chemin. بِتِبَاعِ رُسُلِكْ وَبِتَوْحِيدِكْ وَطَاعَتِكْ Saadi le dit. Ceux qui suivent, ceux qui restent dans le tawhid d'Allah, l'unicité d'Allah, qui suivent le prophète alayhi salat wa salam, la révélation d'Allah, et qui suivent donc le sirat al-mustaqim, ce qui implique être assidu dans ses engagements vers Allah, et ça commence par la salat. Mes chers frères et sœurs, tout ce qu'on a pu demander à notre Seigneur durant ce mois de Ramadan, autant de tawbah qu'on a demandé à Allah, autant de récompenses qu'on a cumulées en ayant eu la Laylatul Qadr, Inch'Allah, 83 années de ibadah. Cependant, le jour des comptes, on n'échappera pas aux questions concernant nos devoirs et nos engagements. Et ça, on avait dit il y a deux ou trois jours. Awwalu ma yuhasabu عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة الصلاة. La première chose à propos de laquelle chaque croyant sera questionné, interrogé, jugé le jour de Qiyama, ce sont ses prières, ce sont ses salats. Donc, n'ayons pas l'impression, ne nous laissons pas tromper par les grandes promesses de pardon et les grandes promesses de récompense. Le mot tromper, c'était pas adapté. Il ne faut pas qu'on se réfugie pardon. Il y a les grandes promesses et inna Allah la yukhliful mi'ad. Ce qu'Allah promet, il donne. Allah Rabbul Izzah, Allahu Akbar. Mais il faut pas parce que on croit, c'est pas parce que, voilà, il faut pas qu'on se réfugie derrière ces promesses divines pour abandonner la salah. Pour se dire que de toute façon, après Eid, je fais plus la salah. Et Ramadan prochain, je redemanderai le tawbah. Déjà, qui te dit que tu ne meurs pas juste après la Eid? Qui te dit que tu ne meurs pas en cours d'année alors que tu es dans l'abandon des salahs? Et puis notre prophète nous a révélé ce qu'Allah a mis dans son cœur, ce hadith. Nous serons tous interrogés à propos de nos prières. Et si les prières sont correctes, le quota est rempli, tout le reste sera facilité jusqu'à l'accès au Jannah. Mais si dès le départ ça coince, ce sera difficulté sur difficulté. Je répète ce qu'on avait dit il y a quelques jours, mais c'est essentiel. Donc, wattaba'u sabila, qui reste ferme dans les bonnes œuvres, mais également dans l'éloignement du haram. Et c'est là qu'on a besoin d'analyser qu'est-ce qui nous éloignait d'Allah. Est-ce que c'était l'adultère? Est-ce que tu étais un mari infidèle? Est-ce que tu étais une femme, na'oud billah, infidèle? Est-ce que c'était le problème d'argent? Est-ce que tu empruntes avec la banque? Mes chers frères, personne ne pourra apporter un autre discours. Personne ne pourra modifier le wahyullah concernant le riba. Et on ne doit pas avoir bonne conscience quand on donne à la masjid en se disant que je compense ce que je gagne avec l'argent haram. Non. Certes, ce que tu donnes pour la mosquée, pour les associations, ce sont des récompenses pour toi, mais ça ne t'épargne pas de la gravité de l'intérêt et des conséquences. Le jour de Qiyamah, qu'Allah nous protège, alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mass. Ça, c'est grave. Ils seront ressuscités comme des gens qui sont fous, na'oud billah, des gens qui sont atteints de folie. Le jour des comptes, ce sera une humiliation. Qu'Allah nous protège, pardonne à nos frères et ceux qui ont recours à ce moyen de transaction illicite, et permet à chacun, sans porter de jugement bien sûr, et permet à chacun de revenir vers des transactions illicites. Je ne m'étale pas trop. Wattaba'u sabila, qui reste éloigné également du haram, analyse. Est-ce que ton manquement, ton problème de ta vie, ça ne vient pas de ta langue? Riba, buhtan, namima, qila wa qal. Est-ce que c'est pas les réunions de famille ou les sorties entre camarades ou les regroupements où chacun va essayer d'apporter une anecdote croustillante en faisant la riba, la médisance, la calomnie et ainsi de suite? Chacun doit analyser son parcours et ce qu'il a pu rectifier de ce mois béni, et donc analyser les saletés qu'il y avait avant le mois béni, et s'efforcer de faire l'intention ferme et la promesse à Allah d'arrêter totalement ses péchés. On avait fait le tafsir de ce verset dimanche avec un groupe en privé, et un jeune, il est plus jeune, ils sont plus jeunes, ils ont la trentaine, alhamdulillah, Allah yahfadhum jami'an. Il avait dit que, il a parlé du regard, du Moïsab. Il faut pas être hypocrite. Je sais que, de l'environnement dans lequel je vis, avec mon travail, je ne peux pas contrôler mon regard. Je vais pas mentir à mon Seigneur en disant que, wallah, je te promets de contrôler mon regard, et je sais bien que je vais pas le faire. Donc, c'est, mon tawbah ne sera jamais accepté. Je dis, oh, mon frère, écoute, à l'instant T, il faut que ton cœur soit aligné avec tes pensées, avec ta décision. Sois convaincu que ce péché-là, c'est mauvais, c'est sale. Il faut avant tout connaître le péché et connaître ses conséquences et que ça déplaît à notre Seigneur. Et réaliser, ça veut dire quoi? Déplaire à Allah. Faire quelque chose pour lequel Allah n'est pas content, n'est pas satisfait de toi. Réalise, c'est quoi les conséquences d'encourir à la colère d'Allah. Arrive à ce stade où tu vas détester le péché et là, vraiment, tu vas demander un tawbatun nasuha. Il y a une différence entre celui qui demande taouba et qui a déjà l'intention de recommencer. Et celui qui, parce qu'il voulait me ramener vers la réalité du terrain. Mais moi, je lui ai montré que la réalité du terrain, notre prophète sallam l'avait déjà scéné. Allahu Akbar, Allahumma salli ala nabi al-Mustafa wa al-Rasul al-Mujtaba rahmatan lil-alamin, qui a propagé la mission. Ya ayyuha al-Rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbik. Et nashhadu. Le prophète sallam avait demandé aux sahaba lors du pèlerinage d'adieu, attesté, ils ont tous dit Allahumma, oh Allah, nous attestons que le prophète a dit, a propagé. C'est pour ça que personne ne peut amener un subhanallah, je veux dire un dhikr en plus, une action que le prophète ne nous a pas demandé de faire, ni même changer le timing des actions, en faire une nouvelle sunnah. On n'a pas le droit, par amour de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous devons respecter son enseignement, qu'Allah nous guide vers le respect de son enseignement, il nous éloigne des innovations et il nous éloigne des mauvaises interprétations qui nous font glisser vers des bidins. Il est parti un peu loin. Bon, du coup, je me raccroche au tafsir. Oui, je disais que le prophète sallam nous enseignait tout ce qui nous est profitable, même ce cas de figure. Le cas de figure où un musulman est sincère, je vais garder l'exemple du contrôle du regard, il est sincère, il dit « Oh Allah, jamais plus je te promets de contrôler mon regard, Ya Rab. » Et il est sincère, demande taouba, il regrette. Mais quelques jours après, circonstance qui fait qu'il retombe le même péché. Mais quand il retombe le même péché, il redemande taouba avec beaucoup d'humilité et de sincérité. Et le prophète me dit que Abdun adhnaba dhanban, un serviteur qui commet un péché et qui sait qu'il est au-dessus de lui, un Seigneur qui est clément et miséricordieux demande pardon. Sincèrement. Et Allah lui accorde son pardon. Mais que, après, ce serviteur, par inadvertance, par faiblesse, il retombe le même péché. Mais quand il retombe le même péché, il regrette et demande à Allah pardon avec sincérité. Allah lui accorde son pardon. Quelque temps après, par faiblesse, il retombe vers le même péché. Le Brassam a cité le cas 3 fois avec sa patience prophétique pour nous faire comprendre qu'Allah est capable de pardonner tant qu'on est sincère. Mais vous savez, celui qui retombe vers le même péché, mais qui a la capacité de le regretter sincèrement, il est confus, il est rouge de honte, c'est quelqu'un qui est sincère. C'est ça la différence entre celui qui planifie le péché et celui qui, réalité du terrain, finit par retomber, mais regrette et demande pardon à Allah Azza wa Jalla. Donc, وَاتَّبَعُوا سَبِيلَ لَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ et protège-les du châtiment de l'enfer. C'est ce que nous demandons régulièrement. اللَّهُمَّ اجْرِنَا مِنَ النَّارِ. Et c'est un des objectifs majeurs de chaque croyant. Ya ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ô vous qui avez la foi, protégez-vous et protégez vos proches, votre famille du feu de l'enfer. Ça, c'est mon objectif de père de famille. C'est mon objectif d'époux, de mari. C'est mon objectif en tant que maman, en tant qu'épouse, en tant que ummati. C'est l'objectif de chaque croyant de se protéger soi-même du feu de l'enfer en restant éloigné des péchés, en faisant les bonnes œuvres, et de protéger ceux que nous aimons. Et c'est ce que les anges, c'est ce que les anges demandent pour nous. Oh Allah, pardonne à ceux qui demandent pardon et protège-les du feu de l'enfer. Et voyez comment est-ce que le doigt des anges est puissant et ça rejoint l'objectif de notre création. Rabbana wadrilhum jannati adnin allati wa'adtahum. وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Seigneur, fais-les entrer au jardin du Jannah que tu leur as promis, ainsi qu'aux vertueux parmi leurs ancêtres, leurs épouses et leurs descendants, car c'est toi le puissant, le sage. Les anges demandent qu'Allah nous accorde le pardon, nous protège du feu de l'enfer et nous accorde le Jannah. Et accorde le paradis à notre épouse, à nos enfants, à nos parents, c'est-à-dire nos descendants et nos ascendants. C'est exactement le verset qu'on a lu. C'est ce que les anges demandent pour nous. Et les savants disent, n'est-ce pas le plus grand souhait d'un père de famille, d'une maman, que de voir ses enfants heureux dans ce monde, en bonne santé, sous la protection d'Allah, ça veut dire en sécurité. N'est-ce pas le rêve de chaque parent de voir leurs enfants réussir de leur parcours scolaire, d'avoir un bon métier, qu'ils se marient, qu'ils aient eux-mêmes des enfants, qu'ils aient une vie de couple épanouie, qu'ils aient une vie paisible, ils sont heureux. Comment est-ce que nous sommes heureux lorsque nous voyons nos enfants, par exemple, contexte, lorsqu'on voit nos enfants déballer leur cadeau de Eid? Comment est-ce que nous sommes heureux? Quoique cette année, on aura du mal à être vraiment heureux. Parce qu'à chaque fois que vous regarderez vos enfants déballer les cadeaux de Eid, pensez aux enfants qui sont en Palestine. On ne parle même plus de cadeaux, On parle de manger, de quelques bouchées de nourriture. Ça doit être une tristesse qui doit rester dans nos cœurs, nous accompagner. On ne peut pas être vraiment heureux quand on a des gens qui sont malheureux ailleurs. Qu'Allah nous guide nos pas et nous permet de comprendre ces choses, et Allah envoie son aide à l'ensemble de la Ummah. Donc, si je reviens vers mon exemple, comment on est heureux quand on voit nos enfants déballer leurs cadeaux, la joie, le sourire sur le visage? Ça, c'est quelque chose qui remplit nos cœurs de joie. Comment est-ce que nous sommes heureux si, je donne un exemple, hein, quand on amène nos enfants en vacances, d'accord? Je donne un exemple, vacances de neige, j'ai quasiment pas vu de neige. Vacances de neige, vous amenez vos enfants, ils font du ski, ils font des trucs comme ça, ils sont heureux. Voyez la joie sur le visage, vous amenez dans un beau restaurant, ils sont contents, vous êtes en famille, le bonheur familial. Comment est-ce qu'en tant que papa, en tant que maman, ça nous remplit? La consécration, c'est que de le Jannah, tu te retrouves dans ces palais, dans ces jardins, dans ces choses qu'on ne peut pas décrire. Parce qu'aucun œil n'a vu, aucun oreille n'a entendu, aucun cœur ne peut même pas imaginer. Vous savez, la puissance de l'imagination, la puissance de l'imaginaire, c'est exceptionnel. On est capable d'imaginer des choses extraordinaires. Mais le Jannah, tu ne peux même pas imaginer. Tellement c'est puissant, ça appartient à notre Seigneur. Donc la consécration, c'est quand tu es dans ces châteaux, dans ces palais du Jannah, plénitude, bienfait, bonheur, reconnaissance, et que tu vois ton épouse qui s'approche, tes enfants, tes petits-enfants, tes parents, tes grands-parents, et que tout le monde est réuni. Avec l'âge des gens du paradis, c'est 33 ans, l'âge où on est le plus en forme, et que tu vois ton grand-père qui est mort d'un cancer, qui est mort de leucémie. C'est la dernière image que tu as eue de lui. Tu le vois ressuscité, tu vois de le Jannah, il a 33 ans, il est beau, il est grand, il est fort, il est heureux. Ça peut être ton enfant qui était malade durant toute sa vie. Et que tu le vois enfin en bonne santé, heureux, chose que tu n'imaginais même pas. C'est-à-dire que ton cerveau est tellement traumatisé par la souffrance que tu as vue durant toute ta vie qu'il ne te permet même pas de l'imaginer en bonne santé, en train de rire, en train de profiter des bonheurs de ce monde. Mais le jour du Qiyam, dans le Jannah, tu le vois en bonne santé. Ça, c'est le summum du bonheur. Voir ses proches autour de soi dans le Jannah, c'est également la consécration. Ça prouve que tu as réussi ton parcours. Et que tes parents ont réussi, tes grands-parents ont réussi, tes enfants ont réussi. Parce qu'attention, dans le Jannah, on peut souhaiter, on peut avoir ce qu'on veut. Mais dans le Jannah, tu ne peux pas tirer quelqu'un de l'enfer. Ça, c'est une décision qui appartient à notre Seigneur. Et qui peut découler ensuite du shafa'a, de l'intercession de le prophète alayhi salatu wassalam. Et quand tu es dans le paradis, tu ne seras pas triste pour un membre de ta famille qui est dans l'enfer. Qu'Allah nous protège. C'est grave ce que je suis en train de dire, c'est cruel. C'est pas cruel, mais ça écorche un peu les oreilles. Mais si tu as un proche qui n'a pas entré dans le Jannah, qui est dans l'enfer parce qu'il a commis trop de péchés, tu vas juste éprouver une tristesse, des regrets. Mais c'est pas quelque chose qui va t'atteindre parce que tu es dans le Jannah, il n'y a pas de tristesse dans le Jannah. Réalise que le plus grand bonheur, c'est la consécration. Je disais, c'est la réussite. Oui, ce que je voulais dire, c'est, je voulais faire un lien avec un autre verset, وَمَنْ صَلَحَ مِنْ أَبَائِهِمْ. Oui, le Jannah, on n'y entre pas avec le livret de famille. Je crois que tu dis aux anges, voilà, dans ma famille, il y a un tel, il y a 4 enfants, il y a 3 filles, 2 garçons, ou je ne sais pas quoi. Non. Ceux qui entrent, c'est ceux qui ont l'accord d'Allah, رَبُّ الْعِزَ وَمَنْ صَلَحَ. Ceux qui avaient les qualités, c'est-à-dire ceux qui ont réuni les bonnes œuvres et resté éloignés des péchés, et que le parcours a été agréé par Allah, eux ils rentrent dans le Jannah. Donc quand tu retrouves ta famille dans le Jannah, c'est qu'ils ont tous obtenu l'agrément d'Allah et c'est une famille qui a réussi. Mes chers frères et sœurs, la famille qui a réussi, c'est pas la famille bonheur de ce monde où tout le monde a un excellent travail, une belle voiture et ainsi de suite. Ça peut être ça aussi, mais si ton fils est avocat, un médecin, un chirurgien, un prof d'université, un ingénieur, ainsi de suite, mais qu'il ne prie pas et qu'ils t'ont placé en EHPAD parce qu'ils ne veulent pas s'occuper de toi, c'est pas une famille qui a réussi. Là, wallah, il a dit, je jure par le Seigneur des mondes que ça ne s'appelle pas une famille qui a réussi. Même s'ils ont l'apparence du bonheur de ce dunya, non. S'ils n'ont pas la religion de leur vie, c'est pas la réussite. Ainsi donc, retrouver ta famille dans le Jannah, c'est la consécration d'une vie d'un être humain. C'est l'objectif majeur qui a été atteint. Tawhid pour toi et tawhid pour toi, pour ta famille, ta femme, tes enfants, tes parents. Qu'Allah nous l'accorde. Et c'est ce souhait-là, les anges demandent du'a pour toi dans ce sens. D'où l'importance du du'a des anges, mais pas pour tous les croyants. Pour ceux qui ont iman, qui ont demandé tauba ou taba'u sabila, qui ont suivi le chemin de notre Seigneur, comprenons qu'ils ont été fermes, istiqama. C'est là que nous devons réaliser que rester ferme dans le droit chemin, chers frères et sœurs, c'est l'objectif principal de notre vie. Et c'est maintenant, 29e Ramadan, ici à La Réunion, 30e Ramadan, fi bilad al-Haramain, en métropole et dans beaucoup de pays, c'est maintenant que tu dois prendre la décision ferme de rester sur le droit chemin et de ne pas retourner vers les mêmes péchés qu'avant en demandant à Allah son aide. Et enfin, je termine parce que c'était très long, waqihimus sayyi'at, autre doua des anges derniers, enfin de ce verset je veux dire, et préserve-les des mauvaises actions. Waqihimus sayyi'at. Et ça a été traduit également en parenthèse par du châtiment des mauvaises actions, parce que les deux sont liés. Saadi dit, les anges demandent à Allah, protège tes serviteurs du fait de commettre des péchés et donc des conséquences qui risquent de découler des péchés. Ils demandent à Allah de nous protéger contre notre nafs, notre shahawat, du fait de suivre Shaitan, que nous ne retombions pas vers les mêmes péchés. Qu'Allah nous accorde ces doigts des anges, qu'Allah nous permet d'apporter un changement dans notre vie, qu'Allah nous guide sur le sirat al-mustaqim et nous donne la mort sur le sirat al-mustaqim. Je termine par al-fawz. C'est quoi le succès? C'est quoi être heureux? C'est être avec sa famille dans le Jannah, mais c'est avant tout vivre avec iman sur cette terre en accomplissant les bonnes actions externe, salat, sadaqa, mais également interne, développer toutes les a'mal, le qulub que nous avons essayé de développer durant ce mois béni pour que tu ressentes tes bonnes actions. C'est également rester éloigné des péchés et trouver la sa'ada, tatma'innul qulub, dans le dhikrullah, dans les bonnes œuvres et non pas dans le haram. Un homme heureux, c'est celui qui reste ferme dans ce droit chemin toute sa vie. Et que durant le mois de Ramadan, il ne fait qu'augmenter ses quotas de bonnes actions. Mais il reste sur les bonnes œuvres durant toute sa vie, éloigné des péchés toute sa vie. Un homme heureux, c'est celui qui meurt de cette situation, en étant sur le droit chemin. Un homme heureux, c'est qu'Allah lui accorde husnul khatima. Tu meurs dans la masjid, en faisant la salah. Ou quelle que soit la situation, vous savez, même une personne, je connais quelqu'un qui est décédé dans la salle de bain. Mais même tu meurs dans la salle de bain, quel que soit l'endroit, je veux dire, et pas forcément, husnul khatima, c'est pas uniquement mourir dans la masjid en position de sijda, ça peut arriver, Allahu Akbar. Mais même si tu meurs, quel que soit l'endroit, j'ai, Allah yarhamhu, mon ancien directeur, Allah yarhamhu, wa yuwassi'a qabrahu, Uthman Qadi, c'est quelqu'un de bien. Il est mort d'un arrêt cardiaque de la rue Maréchal Leclerc, pendant le mois de Ramadan, il y a, je pense, il y a 10 ans. Quel que soit l'endroit, on peut dire que oui, la rue, c'est souk, c'est un endroit où il est chahir. Non, c'est pas ça. Tu meurs dans le ta'a, alors que tu es engagé dans l'obéissance d'Allah et que tu as fait table rase de tes péchés, que tu n'accomplis pas de péché volontairement. Ça, c'est un homme heureux qui meurt et qu'on appelle husnul khatima. Un homme heureux, c'est celui qui, au moment de mourir, voit l'ange de la mort précédé d'un cortège de, dans cet hadith, de 500 malaïka qui lui annonce tout sa bonne nouvelle, que Allah est satisfait de toi et que l'ange de la mort te dit qu'Allah est satisfait de toi et que tu reçois ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya, la bonne nouvelle que tu quittes ce monde avec un Seigneur qui est satisfait de toi. L'homme heureux, c'est celui qui est placé dans la tombe et qui répond aux questions des anges avec grande aisance. C'est celui qui voit sa tombe s'élargir. C'est celui qui voit une fenêtre du Jannah qui s'ouvre à lui et qu'on lui dit « voilà ta future place de le Jannah » et qui voit la place qui aurait été la sienne de le Jahannam s'il était dans le mauvais chemin, s'il n'avait pas « wattaba'u sabilak » suivi le chemin d'Allah, et qui donc remercie Allah pour le Jannah et remercie Allah qui l'a protégé du mauvais chemin, waqihimus sayyi'at, qui l'a protégé des péchés. Un homme heureux, c'est celui qui est ressuscité le jour de Qiyama ma'a an-nabiyyin wa as-siddiqin wa ash-shuhada wa as-salihin, Allahumma ja'alna minhum. C'est celui qui est invité pour être selon du trône d'Allah en ayant développé une des sept catégories des actions qui sont connues. C'est un homme qui reçoit son livret de compte dans la main droite et qui dit à l'humanité, ha umqra'u kitabiyah, voilà, regardez mon livret d'action. C'est le seul moment où on aura le droit d'être fier. Parce qu'Allah t'a agréé et qui rend le Jannah, qui traverse le Sirat, qui n'est pas bloqué par les opprimés, les gens qui l'auraient fait du mal. Non, il n'y a pas le hadith de Mouflis pour lui, non. Il n'a pas fait de riba, bohta, il n'a pas volé, il n'a pas menti, non, pas volé, il n'a pas fait du mal aux gens. Donc personne n'a quoi que ce soit à lui reprocher le Jannah, il rend le Jannah, bisalam, dans ma ja'alna minhum. Et qui retrouve sa femme, ses enfants, ses parents. Ça, c'est un homme heureux, mes chers frères et sœurs. Nous voulons être cette personne. Là, de ce mois béni, nous en avons pris le chemin. Parce que nous sommes au paroxysme de notre iman. Demandons à Allah de nous garder dans le droit chemin, de rester ferme et de ne surtout pas retomber vers nos erreurs passées. Qu'Allah nous accorde cette force de iman et nous accorde le tawfir. Avec cette intervention, nous complétons nos programmes de ce mois de Ramadan. Qu'Allah accepte ces petites assemblées, pardonne nos manquements, pardonne nos erreurs, mes erreurs à moi si je me suis trompé dans des références, dans des versets du Coran, dans des hadiths, l'erreur humaine. Qu'Allah pardonne les manquements, les erreurs, qu'Allah pardonne nos péchés et que ces assemblées nous auront permis de nous rapprocher de lui, qu'Allah nous permet, nous guide nos cœurs pour être assidus à l'apprentissage de la connaissance religieuse. Et en cette fin du mois de Ramadan, demandons à Allah d'accorder la santé aux personnes qui sont malades, d'accorder son aide aux personnes éprouvées. Il y a beaucoup de nos sœurs et de nos mères qui sont atteintes de cancer, je dis, dans un récent programme. Il y en a qui sont à l'hôpital, il y en a qui sont dans des ahwal. Qu'Allah leur accorde la santé, apaise leur cœur et soulage leur famille et fait voir à leur famille le retour de ces personnes aimées au sein de leur foyer familial en bonne santé, que ce soit la fraîcheur de leurs yeux. Qu'Allah nous permette de vivre un Eid avec beaucoup de muhabba, beaucoup d'entente. Qu'Allah ramène la muhabba au sein des familles. Qu'Allah éloigne nos cœurs, enlève de nos cœurs les saletés, la jalousie, tout ce qui nous éloigne les uns des autres. Qu'Allah nous accorde la qana'a, la satisfaction de ce qu'il nous accorde comme bienfait. Qu'Allah unisse les cœurs, rapproche les cœurs, nous permet d'aimer nos parents, nos frères, nos sœurs, nos proches. Qu'Allah apporte la muhabba au sein des familles, au sein de la umma, et que notre bon comportement soit un moyen de guider pour nos voisins, pour les gens de toute confession, pour que nous soyons vraiment des asbab de hidayah. Qu'Allah nous accorde bénédiction de nos biens, de notre famille, de notre santé. On est dans une période de crise, la situation financière est complexe. Qu'Allah nous accorde la bénédiction, cette bénédiction elle viendra, qu'on donnera l'aumône régulièrement. Qu'Allah nous accorde la clairvoyance, nous permet de voir, vous savez, quand on arrive à un sommet de piété, ya ayyuhal ladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Allah nous donne il y a une traduction qui est bien un terme, la clairvoyance, le discernement, c'est ça. Qu'Allah nous accorde le discernement. Le discernement nous permet de voir le haqq comme étant haqq. Allahumma lana al-haqq haqqan wa rzuqna ittiba'ahu. Et nous permet de voir le mal comme étant mal. Ce qui est péché, qu'Allah nous permet de le voir comme péché. Ce qui est douteux, qu'Allah nous permet de le voir comme douteux et de s'en éloigner. Ce qui est bid'a et innovation, qui ne découle pas de l'enseignement du Prophète sallam et de la sunna des khulafa ar-rashidin, qu'Allah nous permet de voir ce qui n'est pas de la sunna comme étant khilaf as-sunna et nous permet d'avoir une pratique authentique par amour pour lui et ensuite par amour pour le Habib alayhi salat wa salam. Qu'Allah accepte nos salats de Eid demain ou après-demain en fonction de la vision de la lune et qu'Allah nous permet par la suite de faire les 6 shawwal qui nous permettra d'obtenir l'année de récompense, l'année passée en état de jeûne et qu'Allah nous accorde une vie d'istiqama wa tawfiqi illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna salamun ala al-mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan.